Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du mercredi 12 mars 2025. Au Mali, Daouda Magassa, proche de l'imam Mahamoud Diko, a été libéré après son enlèvement en février. Gouvernement parallèle au Soudan, l'Union africaine alerte sur un énorme risque de partition du pays. République démocratique du Congo, l'Angola annonce de prochaines négociations directes entre Kinshasa et le M23.
Ici, c'est la situation sur le terrain qui, à mon avis, influencé l'Angola en disant qu'il faut discuter avec ces rebelles qui sont des gens de Tutsi d'origine congolaise.
Colette Breckman, journaliste, donnera dans la partie magazine les clés pour comprendre le nouveau positionnement de la RDC face au M23. Les représailles se multiplient face aux droits de douane des États-Unis. La Russie attend une notification officielle de Washington sur la proposition de cesser le feu de 30 jours en Ukraine, acceptée par Kiev. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Mali, Daouda Magassa, un proche de l'imam Mahamoud Diko, critique des autorités, a été libéré mardi. Il avait été enlevé début février par des hommes armés non identifiés. Claire Morin-Gibou.
Daouda Magassa s'est exprimé après sa libération. « Je suis libre pour le moment, je ne souhaite pas en dire plus », a-t-il déclaré. Nous tenons à informer l'opinion nationale et internationale de la libération de notre camarade, a indiqué dans un communiqué la commission de soutien de l'imam Diko, dont M. Magassa est membre. Et en attendant d'avoir plus de précisions sur les causes et l'état de sa détention, nous tenons à rassurer l'ensemble des Maliens qu'ils ne souffrent d'aucun traumatisme, ajoute le communiqué. Daouda Magassa est un proche du célèbre imam Mahamoud Diko, figure tutélaire d'un mouvement de contestation qui a précédé la chute du président civil Ibrahim Boubacar Keïta, renversé par un coup d'état militaire en 2020. Il avait été enlevé le 5 février par des hommes armés non identifiés, selon ses proches. Son enlèvement est survenu dans un contexte marqué par l'annonce du retour le 14 février au Mali de l'imam Diko, installé en Algérie depuis décembre 2023. Celui-ci avait finalement été reporté.
Dans l'est de la RDC, Human Rights Watch accuse le M23 de harceler journalistes, activistes et opposants depuis sa prise de Goma en janvier. L'ONG dénonce des exécutions sommaires et des menaces, tandis que l'ONU s'inquiète pour la sécurité des civils et des blessés enlevés par le groupe armé. L'Union africaine dit qu'elle ne reconnaît pas le prétendu gouvernement ou entité parallèle en République du Soudan. L'organisation panafricaine avertit que la formation d'un tel gouvernement, annoncé par les paramilitaires des forces de soutien rapide et leurs alliés, représenterait un énorme risque de partition pour un pays ravagé par une sanglante guerre civile. Le point avec Eric Manirakiza.
Le Conseil Paix et Sécurité a exprimé ce mercredi sa grave préoccupation et sa ferme condamnation des récents développements au Soudan. Un gouvernement parallèle a été convenu fin février à Nairobi avec la signature d'une charte fondatrice par les FSR et leurs alliés, plusieurs groupes politiques et militaires, dont le Mouvement populaire de libération du Soudan Nord. Cette alliance rebelle prévoit de créer un gouvernement de paix et d'unité dans les zones contrôlées par les rebelles, fondé sur un État laïque, démocratique, décentralisé, basé sur la liberté, l'égalité et la justice, sans parti pris culturel, ethnique, religieux ou régional. Début mars, l'Alliance rebelle a également signé, toujours à Nairobi, une constitution de transition. L'organisation panafricaine a appelé la communauté internationale à ne pas reconnaître son gouvernement ni à soutenir ses promoteurs. L'Union européenne a réitéré son engagement pour l'intégrité territoriale du Soudan. Début mars, le Conseil de sécurité de l'ONU avait affirmé que l'initiative risquerait d'exacerber le conflit en cours au Soudan, de fragmenter le pays et d'aggraver une situation humanitaire déjà catastrophique.
L'administration du Tigré a demandé l'aide d'Addis Abeba face aux tensions avec une faction locale redoutant une nouvelle spirale de violence. Cette crise survient après des accusations de coup d'État et des luttes internes au sein du parti tigréen. Mercredi, Getachew Reda, qui dirige l'une des factions et l'administration intérimaire du Tigré, a déclaré que son rival, Debretsion Gebremichael, avait pris de force le contrôle de l'administration de la ville d'Adigrat dans le nord du pays un jour plus tôt. Au Mozambique, le cyclone Jude a fait 6 morts et détruit plus de 900 maisons avec des vents de 195 km/h en décembre. Le cyclone Chido avait déjà causé 120 décès et de lourds dégâts.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium importés aux États-Unis sont entrés en vigueur aujourd'hui, mercredi 12 avril, 12 mars du moins. Cette décision du président américain Donald Trump a entraîné des ripostes et réactions de l'Union européenne et des principaux pays concernés, dont certains se sont dit ouverts à la négociation. Le point avec Nathalie Barge.
Le ministère chinois des Affaires étrangères a promis de prendre les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de son pays. La Commission européenne a annoncé qu'elle allait taxer plusieurs produits américains à partir du 1er avril. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a toutefois déclaré être prête au dialogue. L'Allemagne a qualifié ces taxes de mauvaises décisions. Le Canada a déclaré que des nouveaux droits de douane de 25% seront appliqués sur certains produits américains à partir de jeudi. Plusieurs pays ont tenté de négocier avec les États-Unis avant l'application des taxes américaines. L'Australie, qui a échoué à négocier une exemption de dernière minute, a jugé ses droits de douane injustifiés. Le ministre de l'économie japonais Yoji Muto a jugé regrettable que son pays ne soit pas exempté sur l'acier après une vaine tentative de négociation à Washington. Le premier ministre britannique Keir Starmer a indiqué que le Royaume-Uni est en train de négocier un accord avec les États-Unis qui devrait inclure les droits de douane. L'un des objectifs affichés de Donald Trump est de protéger l'industrie sidérurgique américaine contre la concurrence asiatique. Sachant que les États-Unis importent environ la moitié de l'acier et de l'aluminium utilisés dans le pays. Le président américain avait déjà taxé les importations d'acier et d'aluminium durant son premier mandat, mais les nouvelles taxes se veulent sans exception et couvrent également des produits transformés.
La Russie a annoncé aujourd'hui qu'elle attendait d'être officiellement informée par Washington de sa proposition de cesser le feu de 30 jours en Ukraine acceptée par Kiev après plus de 3 ans de guerre au lendemain d'une rencontre diplomatique américano-ukrainienne à Jeddah en Arabie Saoudite. Les précisions de John Lindon.
Nous avons des contacts prévus dans les jours à venir avec les Américains et nous comptons là-dessus pour obtenir une information complète, a dit lors d'un briefing à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Un appel téléphonique au plus haut niveau entre Donald Trump et Vladimir Poutine est possible dans un délai assez court, a-t-il ajouté. À Washington, le président américain a assuré mardi qu'il allait parler à son homologue russe sans doute cette semaine. Les alliés occidentaux de l'Ukraine ont exhorté la Russie à se prononcer. À présent, la balle est dans le camp de Poutine, a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz sur le réseau X. Dès mardi soir, les deux plus hauts responsables de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Antonio Costa, avaient salué l'accord et affirmé qu'une décision de Poutine était maintenant attendue. La Chine, qui se présente comme une partie neutre dans le conflit, a déclaré mercredi avoir pris note de la proposition de cesser le feu.
L'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, a fourni aujourd'hui un nouveau bilan de 1383 civils tués depuis le 6 mars par les forces de sécurité syriennes et des groupes alliés dans l'ouest et le centre du pays. Les tueries ont eu lieu principalement les 7 et 8 mars dans le fief de la minorité musulmane alaouite dont est issu le clan Assad. L'OSDH a précisé que le bilan restait provisoire. L'ex-président philippin Rodrigo Duterte a atterri aux Pays-Bas pour répondre aux accusations de crimes contre l'humanité devant la CPI. Son arrestation suscite des réactions contrastées entre soutien populaire et accusations d'injustice. Âgé de 79 ans, M. Duterte est le premier ancien chef d'État asiatique à être inculpé devant la CPI. Le pape François va célébrer ce jeudi, demain, le 12e anniversaire de son élection à la tête de l'Église catholique, mais il marquera l'occasion depuis l'hôpital Gemelli à Rome, où il se remet toujours d'une double pneumonie. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Claire Morin-Gibou.
Au Burkina Faso, le ministère de l'Agriculture a réceptionné mardi un lot d'équipements d'une valeur de 13 milliards de francs CFA, notamment des bulldozers, grues et pelles chargeuses. Selon les autorités, ces équipements serviront à construire ou réhabiliter des barrages hydro-agricoles pour renforcer l'irrigation, améliorer la productivité agraire et accroître la souveraineté alimentaire. Les exportations de cuivre de la République démocratique du Congo ont atteint 3,1 millions de tonnes en 2024, selon les dernières statistiques du ministère des Mines congolais. Il s'agit d'une hausse d'environ 13% en glissement annuel, précise Ecofin. La RDC consolide ainsi son statut de deuxième producteur mondial de cuivre, ravi en 2003 au Pérou. Le ministre sud-africain des Finances a annoncé ce mercredi la hausse d'un point de la TVA en 2 ans dans sa présentation du budget. Se disant très conscient de l'augmentation du coût de la vie, Enoch Gondongwana dit vouloir protéger les ménages vulnérables en élargissant notamment le panier des produits alimentaires exonérés de TVA. Mais le parti DIE, deuxième formation du pays, a déjà prévenu qu'il rejetterait ce budget.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Patrice Motsepe reste président de la CAF. Samuel Eto'o, lui, fait son entrée au sein du comité exécutif de l'instance africaine du ballon rond.
Oui, seul candidat en lice pour la région d'Afrique centrale, l'ex-attaquant et actuel président de la Fédération camerounaise de football a été élu par acclamation lors du congrès extraordinaire de l'organisation qui a eu lieu au Caire en Égypte. Le tribunal arbitral du sport avait ordonné vendredi dernier à la CAF d'accepter la candidature de Samuel Eto'o fils à son comité exécutif. La CAF l'avait refusé en janvier, estimant qu'Eto'o avait gravement violé les principes d'éthique, d'intégrité et d'esprit sportif en devenant l'ambassadeur d'une société de Paris. Eto'o avait fait appel de cette décision auprès du TAS. Pour sa part, sans surprise, Patrice Motsepe va effectuer un deuxième mandat de 4 ans comme patron du foot africain après son premier bail débuté en 2021. Seul candidat en lice, le Sud-Africain, propriétaire du club de Mamelodi Sundowns, a été réélu par acclamation sous les yeux du président de la FIFA, Gianni Infantino.
L'Égypte a profité de cette AG de la CAF pour demander à accueillir des matchs du Mondial 2034.
Les pharaons ont été les premiers Africains à avoir disputé la Coupe du monde de football en Italie en 1934. S'adressant à Gianni Infantino, président de la FIFA, Ani Abou Rida, président de la Fédération égyptienne de football, a dit espérer que l'instance leur accordera à l'occasion du centenaire en 2034 l'honneur d'accueillir et d'organiser l'un des groupes du Mondial 2034 en tant qu'Africain et Égyptien. L'Arabie Saoudite sera pleinement capable d'organiser une édition historique de la Coupe du Monde, a-t-il ajouté. Seule candidate, l'Arabie Saoudite a été officiellement désignée le 11 décembre, organisatrice du Mondial 2034 lors du congrès de la FIFA. Le Royaume deviendra ainsi le troisième pays arabe à accueillir la Coupe du Monde, après le Qatar en 2022 et le Maroc en 2030, conjointement avec l'Espagne et le Portugal.
Basketball, ici à NBA, Cleveland égale sa série record de 15 succès.
Cleveland a enfoncé Brooklyn 109-104 et égalé sa série record de 15 succès d'affilée datant du début d'une saison folle pour les Cavaliers. Menés une grande partie de la rencontre et en retard de 18 points dans le troisième quart-temps, Cleveland s'est fait violence pour revenir et conquérir dans le quatrième quart-temps ce 15e succès de rang. Les Cavaliers avaient commencé l'exercice 2024-2025 sur un 15-0 qui les avait placés en tête de la conférence Est, où ils trônent avec 55 victoires et 10 défaites. À Indianapolis, les Pacers ont offert à leurs fans une fin de rencontre de folie face aux Milwaukee Bucks. Menés de 3 points avec seulement 3 secondes 9 à jouer, ils ont réussi une astucieuse combinaison pour un tir en déséquilibre d'Ali Barton, qui a fait mouche avec une faute sifflée contre Gianni Antetokounmpo. Le meneur des Pacers n'a pas tremblé sur la ligne des lancers francs pour offrir un succès inespéré aux siens, 115-114. Pour sa part, Washington a été largement battu à Détroit, 123-103.
Page des sports VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. La médiation angolaise a annoncé mardi soir de prochaines négociations directes entre le M23 et Kinshasa après une visite à Luanda du président de la RDC, Félix Tshisekedi, je vais y arriver, qui refusait jusqu'ici de discuter avec ce groupe armé. Pour une analyse, Eric Manirakiza, adjoint à Bruxelles, Colette Breckman, journaliste belge et spécialiste de la région des Grands Lacs.
Cette intransigeance, il faut être fort sur le terrain, ce que malheureusement pour lui, il n'est pas.
Des négociations directes avec le M23, c'était l'exigence aussi de Kigali.
Oui, c'est l'exigence de Kigali, mais c'était surtout le refus du président Tshisekedi, parce qu'il considérait le M23 comme un groupe rebelle trop lié à qui il n'existerait pas sans le soutien rwandais. Bon, cela dit, on ne peut pas encore dire qu'il discute directement avec Kigali, mais c'est évidemment un aveu de faiblesse. Alors, il y a encore une autre question qui se pose, c'est qu'il y a tout de même la branche politique du M23, qui est l'Alliance Fleuve-Congo, de l'aspect politique de cette affaire, c'est-à-dire...
La vue diplomatique, Kinshasa avait obtenu beaucoup de sanctions contre le Rwanda.
Mais non, mais ça sont deux choses différentes. Je crois que la communauté internationale en Europe, enfin la Belgique, veut sanctionner le Rwanda pour son appui aux rebelles. Mais cela dit, la rébellion existe. Elle a une branche politique qui est l'AFC et qui a remporté des victoires. Ici, c'est la situation sur le terrain qui a, à mon avis, influencé l'Angola en disant qu'il faut discuter avec ces rebelles qui sont des gens de Tutsi d'origine congolaise. Il faut discuter avec eux puisque c'est un fait sur le terrain.
Si ces négociations ont lieu, est-ce que vous pensez que ce...
qui sont en exil exigent de pouvoir rentrer dans leur pays, ça c'est quelque chose à mon avis qui peut être négocié d'un point de vue d'une puissance extérieure qui est le Rwanda. Là ce sera plus compliqué, non seulement pour le pouvoir de Kinshasa qui sera désavoué par la population, mais même par l'opinion internationale, les organisations internationales. Ça c'est une autre question.
Il y a eu plusieurs négociations de paix depuis 30 ans. Qu'est-ce qui pourrait mettre fin à ce conflit d'une façon définitive pour retrouver la RDC?
Vraiment pas. C'est un pouvoir fort. Personnellement, j'ai toujours critiqué le pouvoir du président Mobutu, mais il faut reconnaître que de son temps, ce sont des choses qui ne seraient pas arrivées. On ne se serait pas attaqué à un pays important comme le Congo, alors que maintenant, si des pays voisins peuvent se le permettre, c'est parce que le pouvoir en place à Kinshasa a été affaibli. Il a été affaibli par les guerres, il a été affaibli par des situations de compromis politiques, il a été affaibli lui-même par ses erreurs, par la corruption du régime, par son népotisme. Donc il faut un pouvoir représentatif et assez fort qui correspond à la réalité matérielle de cet immense pays au cœur de l'Afrique.
Il y avait aussi un livre mouvement des biens et des services. Aucune communauté n'était pas inquiétée à l'époque.
Voilà, du temps du président Mobutu.
Colette Breckman, journaliste belge et spécialiste de la région des Grands Lacs.
Restez branchés sur VOA Afrique, à Goma, sur 96.2 FM.
Au Kenya, de plus en plus de personnes utilisent les médias sociaux pour s'informer. Le changement numérique modifie le paysage médiatique avec des startups comme Tuko qui émergent en tant que leader de l'information rapide pour le jeune public. Victoria Amunga a rencontré l'équipe pour savoir comment elle concilie le journalisme responsable avec les besoins de l'ère numérique. Le récit est de Lionel Gaïma.
Dans une salle de rédaction animée de la capitale du Kenya, Nairobi, les journalistes du groupe de médias numériques Tuko mettent leurs compétences à profit. Tuko, qui signifie « nous sommes » en swahili, a été créé en 2015 et compte aujourd'hui plus de 30 millions d'utilisateurs de la plateforme chaque mois. Walter Masolo Mambonga dirige le département éditorial de Tuko, chargé de l'actualité politique. 57 jeunes journalistes y travaillent. Selon ce jeune homme de 29 ans, la rapidité avec laquelle l'équipe produit du contenu aide le média à prospérer et à se démarquer des médias traditionnels.
Il est très rapide en termes d'approbation des articles et de publications. Il n'y a pas beaucoup de bureaucratie comme dans les grands médias publics où il y a beaucoup de contrôle.
Touko s'inscrit dans le cadre d'un changement numérique plus large. Un rapport de l'Institut Reuters sur l'actualité numérique révèle qu'au Kenya, 89% des informations sont désormais consommées en ligne. Ce sont les médias sociaux qui ont connu la plus forte progression, puisque 77% des personnes s'informent désormais via ces plateformes. Le personnel de Touko affirme que le public fait confiance à son média.
Nous interagissons toujours sur les médias sociaux et nous avons une équipe solide qui surveille en permanence ce qui se passe. Tout en écoutant les Kenyans et en leur offrant cette plateforme, nous procédons également à de nombreuses vérifications afin que l'article ne soit pas simplement un article à sensation, mais un article fondé sur des faits.
Les faits sont importants dans le cadre de l'évolution vers les informations numériques rapides. Selon le Centre international pour les journalistes, les médias sociaux ont permis à la désinformation de se propager plus rapidement et plus largement. Mais les autorités kényanes estiment qu'il est difficile de réglementer les plateformes numériques. Le Conseil des médias du Kenya, un organisme gouvernemental, affirme qu'il peut être difficile de savoir qui gère un site.
Il y a des plateformes qui se sont multipliées. Pour certaines d'entre elles, leur propriété ne peut même pas être établie en raison de la nature des médias numériques. Par conséquent, il devient difficile pour les régulateurs d'identifier qui se cache derrière cette plateforme.
À mesure que les médias numériques se développent, les jeunes journalistes voient se multiplier les opportunités d'emploi dans un secteur très concurrentiel, affirme le responsable du groupe de médias numériques d'Afrique, Africa Digital Media Group.
Quelqu'un qui aurait eu besoin de toute une équipe de journalistes pour pouvoir sortir et raconter une histoire peut maintenant le faire avec son téléphone. Même pour la rédaction d'un article, il existe de nouveaux outils et logiciels qui permettent de rédiger des articles. Il y a même une prolifération de l'IA.
Les experts des médias estiment que la combinaison des normes des médias traditionnels et des nouveaux outils numériques contribuera à la pérennité des médias kényans.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a appelé aujourd'hui à la désescalade et au dialogue avec les États-Unis après l'entrée en vigueur ce mardi de taxes américaines sur l'acier et l'aluminium venant du monde entier. De leur côté, le président américain Donald Trump et le premier ministre de la province la plus peuplée du Canada, Doug Ford, ont échangé leur point de vue sur les relations commerciales tendues entre les États-Unis et le Canada. Un sujet de la correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, Caroline Pressotti, relaté par Claire Morin-Gibou.
Deuxième jour, nouvelle chute du marché boursier américain. Le président Donald Trump intensifie une guerre commerciale déjà tendue. Le président a menacé de doubler les droits de douane sur les métaux canadiens après l'augmentation des prix des exportations d'électricité vers les États-Unis par le Canada. À la fin de la journée, les deux hommes ont fait marche arrière, laissant la bourse secouée. Le président prévoit toujours des droits de douane de 25% sur les produits canadiens afin de promouvoir les produits « made in America ».
La bonne chose à faire est ce que nous faisons. Nous allons retrouver nos emplois et on ne se moquera pas de nous.
Depuis 36 ans, Raymond Pereiras dirige la Taberna del Alabardero. Son entreprise a survécu au Covid et aux tarifs douaniers du premier mandat du président Trump.
Vous vous souvenez de 2018, 2020 ? Tout va bien se passer. La politique, c'est un jeu, non ?
L'indice Dow Jones a perdu près de 900 points lundi et près de 500 points mardi. Des pertes qui se sont répercutées sur le compte de retraite de Roger Fréchette.
Il est vraiment difficile de voir toute cette valeur disparaître aussi rapidement. Je pense qu'une grande partie de ceux qui étaient gagnés tout au long de l'année a probablement disparu.
Michael de Springfield, en Virginie.
Les gens tirent des conclusions hâtives et réagissent un peu excessivement en ce moment. Attendons 30 jours pour voir les effets de ces droits de douane et de tout le reste, parce que même le président Trump n'arrête pas de changer d'avis. Alors qui sait?
Les analystes financiers disent que c'est cette imprévisibilité qui dérange. Leina Mosley est experte en économie mondiale à l'université de Princeton.
Il est difficile pour les investisseurs, les entreprises et les consommateurs américains de savoir à quoi ressemblera l'environnement politique futur. Je pense qu'il serait utile d'avoir plus de certitude dans ce domaine.
Lorsqu'on lui a demandé s'il prévoyait une récession, le président Trump a répondu « Je ne la vois pas du tout ». Nombreux sont ceux qui se tournent vers le marché boursier pour répondre à cette question.
Les îles Chagos sont l'un des derniers vestiges de l'Empire britannique. Elles abritent actuellement une importante base militaire américaine. Mais sous la pression des Nations Unies, la Grande-Bretagne semble prête à transférer la souveraineté des îles à l'île Maurice. Les critiques affirment que cet accord compromettrait la sécurité de la région face à une menace croissante de la Chine, comme le rapporte Henry Riguel depuis Londres. Le récit est signé John Lyndon.
Située à environ 2500 km à l'est de Madagascar, les îles Chagos sont une colonie britannique depuis 1814. Elles étaient administrées depuis l'île Maurice, qui affirme avoir été contrainte illégalement de les céder en échange de son indépendance en 1968. La Grande-Bretagne a expulsé de force la population des îles Chagos dans les années 1960 et 1970 pour faire place à une base militaire américaine sur Diego Garcia, l'une des plus grandes îles de l'archipel. En 2019, la Cour internationale de justice a statué que la Grande-Bretagne devait céder le contrôle des îles à l'île Maurice. Aujourd'hui, Londres cherche à finaliser cet accord. Le premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré aux parlementaires le mois dernier qu'il était essentiel d'assurer l'avenir de la base militaire américaine.
Sans sécurité juridique, la base ne peut pas fonctionner comme elle le devrait en pratique. Cela nuit à notre sécurité nationale et c'est un cadeau pour nos adversaires.
Selon diverses sources, la Grande-Bretagne céderait la souveraineté des îles Chagos et verserait environ 116 millions de dollars par an pendant 99 ans à l'île Maurice, en contrepartie d'un bail permettant aux États-Unis de maintenir la base militaire sur Diego Garcia. Le président américain Donald Trump a déclaré le mois dernier qu'il était enclin à approuver l'accord. L'accord bénéficie également du soutien de l'Inde, qui entretient des liens étroits avec l'île Maurice. Mais des préoccupations sécuritaires subsistent. Le Parti conservateur britannique, actuellement dans l'opposition, a qualifié le projet de désastre stratégique pour la Grande-Bretagne. La Chine entretient une relation économique grandissante avec l'île Maurice et certains craignent que ces liens ne compromettent la base américaine de Diego Garcia. Evan Fowler, membre de l'Inter-Parliamentary Alliance of China, une organisation qui surveille les menaces en provenance de Pékin, s'inquiète.
L'île Maurice doit beaucoup à la Chine et Pékin utilise cela pour obtenir un avantage politique. Cette zone est stratégiquement importante pour nous et les Chinois en sont bien conscients. Ils ont déjà été actifs militairement autour des îles Chagos.
Après leur expulsion, de nombreux Chagossiens se sont installés à l'île Maurice. Des milliers d'autres ont immigré en Grande-Bretagne. Selon les termes de l'accord, les Chagossiens et leurs familles pourraient retourner sur les îles extérieures de l'archipel, mais Diego Garcia resterait interdit d'accès. Les Chagossiens sont impatients de rentrer chez eux, mais ils semblent impuissants alors que des forces géopolitiques influencent les négociations sur l'avenir de ces îles.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, la mise en onde Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production.